Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charlie.
Salut les garçons.
Tu pars où toi? Alors,
comment ça je pars?
Bah c'est l'Ascension.
Bah oui. Mais l'Ascension de quoi?
Bah c'est le jour férié, c'est l'Ascension.
Ouais, mais c'est une fête catho, ça
bah
on
oui,
s'en fout.
Mais sinon c'est l'occasion de faire une petite pause au nom
hein
du père.
Voilà. Une pause? Non mais moi je suis là fidèle au poste hein. Bon Guillaume il est là aussi non hein,
bah, pour l'instant hein
mais qu'est-ce qu'on va faire?
Mais non mais tu sais le travail quelque part c'est un peu l'exploitation du prolétariat.
Mais on travaille pas, on change le monde.
Oui, mais on a fabriqué un petit best-of de derrière les fagots.
Un florilège déjà.
Oui, un florilège et en plus les gens adorent, c'est l'occasion de réentendre les meilleurs.
Mais on veut du frais, pas du réchauffé, enfin, Guillaume.
Mais non, mais c'est pas du réchauffé, il faut imaginer que c'est la substantifique moelle,
c'est
quoi.
Ça. Et je pense que pour l'Ascension, comme le Christ, soyons là, mais sans être présents physiquement.
Oui,
tu vois,
et en plus, en ce jour saint, on va réentendre.
Non, quoi, vous avez déjà préparé les florilèges, c'est
oui.
ça
Oui, un petit peu d'avance, quoi. Et c'est top, vraiment.
Alors, l'émission avec Benoît Poulvord, c'était le lendemain de l'incendie de Notre-Dame.
Ah, on est vraiment sur un thème catholique.
Oui, et Guillaume a fait une super chronique avec les experts à Notre-Dame, parce qu'on avait ri.
C'était rigolo.
Mais oui, mais tu vois, pendant ce temps-là, nous, on se repose.
Voilà, comme Dieu,
le septième jour.
Alléluia.
Alléluia.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans un nouvel épisode de Par Jupiter intitulé L'Ascension de l'Open Space, qui a convoqué son meilleur grimpeur, Benoît Poulvord. Nous l'avons reçu au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, qu'il a vu sous un regard particulier, disons très graphique, concluant que Dieu est taquin. Mais l'apogée de ce moment réside sans doute dans le sketch où il incarne l'ouvrier qui se rappelle plus s'il a bien éteint son chalumeau en partant. Ensuite, qui pour succéder à l'énergie d'un Benoît Poulvord? L'actrice Anne-Marie Vin sur le thème de la transition écologique qui ne pourra pas se faire sans justice sociale. On parlera aussi de nos nuits, car nous dormons de moins en moins. La moyenne des Français est tombée sous la barre des 7 heures de sommeil. Alors Alex, quels sont ceux qui vont nous tenir éveillés?
C'est à cause des femmes qui me tiennent éveillée, Charline, que je dors peu et que j'ai tant de cernes. Mais j'ai une belle équipe à vous proposer aujourd'hui. Thomas Bideguin qui nous parlera storytelling comme d'habitude. Et si, les opportunités à ne pas manquer. Donc le moment mûrise, ben on vous l'avait promis, les experts Notre-Dame, les Français ont tous un petit peu un avis sur pourquoi la cathédrale, malheureusement, est partie en flammes. Et puis Constance, la journée mondiale de la voix, et elle va en donner. La voix, on terminera chaque fois en florilège avec un Frédéric Fromet emporté par le fioul sur un air d'Édith Piaf.
Allez, accrochez-vous car voici Benoît Poulvord.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Alors, on démarre par quel sujet? Parce que là, il y a une sorte de désordre, on annonce tout.
On va commencer par un petit sujet Taburin. Raoul Taburin a un secret. Le film de Pierre Godot.
C'est pour ça que vous êtes là.
D'après l'œuvre de
Sorbet. Mais souvent, on se demande, mais pourquoi êtes-vous là?
Vous
allez faire un petit peu de promo. En effet, je suis là pour défendre un film que j'aime énormément. On va passer vite le truc de la promo. En même temps, je trouve que ça vaut la peine d'en parler.
Je pense aussi. Vous êtes Raoul Taburin, l'orfèvre de la réparation de vélo. Le lourd secret qui remonte à la surface et qui bouleverse sa vie, c'est qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais su lui faire de vélo. Et l'arrivée d'un photographe joué par Edouard Baird, un photographe portraitiste dans le petit village, va être le déclencheur. C'est donc d'après l'œuvre de Sempé. Vous qui êtes un fondu de Sempé,
oui.
Vous qui dessinez aussi.
Qui vous... Non, qui a essayé.
J'ai déjà vu.
Vous avez fait des études pour ça.
Oui, vous avez fait des études. Ne soyez pas gêné.
Je sais. Non, mais ce qui est terrible, c'est. En effet, on est totalement dans le sujet. Parce que. Ouais. À quel moment on s'arrête d'avoir fait des études de dessin? Est-ce que vous recevez un diplôme? On vous dit après 4 ans. Voilà, vous êtes dessinateur. C'est un diplôme. J'imagine qu'il doit y avoir la même chose pour, diplôme.
Ouais.
Non, journaliste. À quel moment on dit, à quel moment vous êtes devenu journaliste, à quel moment? Bon, on ne sait pas. Les études de dessin, c'est totalement, c'est une sorte de gros bordel. Tu finis, en général avec une 10, une grande 10.
Distinction, hein.
Oui,
parce
c'est
que
ça,
les Français
chez nous,
ça
on dit ouais, grande 10. Bon. Et j'ai fait du dessin, donc j'ai
mention,
terminé.
Mention.
Une... Ah, voilà, chez en France, vous direz que mention.
Traduit.
Mais ça ne fait pas de moi un dessinateur. Non, mais j'ai fait du dessin et Sempé fait partie de ma vie.
Bah oui.
Mais vous l'avez encore tellement. Du dessin sur l'esprit de Sempé. Ouais.
Exactement. Donc vous êtes un véritable fondu, c'est-à-dire un fin connaisseur de Sempé. Donc vous qui connaissez très très bien son œuvre, est-ce que ça vous a permis d'épouser plus facilement la poésie de votre personnage Raoul Taburin, parce qu'il est rudement poétique.
Peut-être. Non, je pense que j'ai beaucoup d'affection, en dehors même du film, j'ai beaucoup d'affection pour les personnages de Sempé, parce que c'est le quotidien, c'est l'ordinaire. J'adore les gens dans les arrêts de bus, par exemple. Prenez un arrêt de bus, vous pouvez raconter n'importe quelle histoire de la vie dans un arrêt de bus. Vous observez un arrêt de bus. Sempé a ce don inné d'observer les êtres humains dans quelque chose de très simple et tout à coup qui détermine une sorte de destin fabuleux ou de destin à pas accompli, de peine perdue.
De solitude.
Absolument. Mais rien n'est plus beau qu'une solitude, comment dirais-je, assumée. Tu vois, ce que j'aime le plus chez Sempé, ce sont des petits hommes vainqueurs, et en même temps, tout le monde dit, mon Dieu, qu'il est petit par rapport à l'élément général, et il est là quand même en train de dire, je vous cite un seul petit dessin, puis j'arrête de prendre la parole, mais ces deux petits hommes qui marchent, et le vent souffle leurs cheveux, le génie du dessin de Sempé, c'est quand même d'arriver à faire comprendre que le vent souffle leurs cheveux. Et puis le type dit à son ami, tout petit, on imagine l'immensité. Il n'y a pas besoin de dessiner la mer. Et il dit, j'en aurais distribué des tordioles. Petit homme, un petit peu querelleur belliqueux. Et en fait, ce qui est génial chez Sempé, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelle est sa colère? Qu'est-ce qui se passera après? C'est quand ton ami te dit, quand on dit, c'est du Sempé, c'est le moment dans la vie où on se dit, c'est tellement simple, absurde, et c'est comme un bruit dans le silence.
Voilà. Il y a une colère chez Sempé, parce que c'est rarement des mots qu'on associe à ses dessins. Il y a un point de vue, il y a une critique, mais colère.
Non, j'ai discuté un jour avec Sempé, on va pas faire les grands experts de Sempé, mais il est pas très facile à, comment dirais-je, à gratter, quoi. Ah, ouais. Il en parle pas, ce qui le rend, à mes yeux, encore plus attachant. Je pense qu'il y en a une, ça c'est mon point de vue, il n'aime pas les psys. Je pense c'est la seule fois où je dis il continue pendant 30 ans à se foutre de la gueule des lacaniens, des psys, parce qu'il est quand même capable d'écrire des textes entiers. Et hier soir, on faisait une avant-première avec lui et je lui dis j'ai rencontré quand même trois fois. J'ai qu'une question à vous poser. Est-ce que vous avez fait une thérapie? Ouais. Ah bah ouais, vous pensez bien qu'il m'a envoyé chier. Il a dit, pour mieux, les questions, c'est vous qui vous les posez, c'est pas moi qui réponds.
Raoul Tabourin, pour y revenir, sa poésie à lui aussi, et sa solitude, parce qu'il y a plein de personnages de Sempé qui sont seuls, qui ont parfois une frustration. Lui, Raoul Tabourin, il est entouré, il y a sa femme Suzanne Clément, il y a ses enfants, etc.
Expliquez peut-être sa frustration, parce qu'on n'en a pas parlé.
Bah si, j'ai expliqué au début que c'était l'orfèvre de la réparation des vélos, son lourd secret remonte à la surface et bouleverse sa vie, c'est qu'il n'a jamais su faire de vélo.
C'est beaucoup de phrases pour dire une phrase. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord.
Ah ouais, parce que si ma mère, elle est devant le truc, elle s'est dit, mais de quoi parle le film?
Bah, c'est ça, je l'avais déjà dit.
C'est un type qui aime le vélo qui sait pas. C'est
parce que quand le vélo qui sait pas où les gens prennent l'émission.
Je peux le répéter, hein.
Ils s'assoient vite, ils prennent leur café.
C'est ça,
vite. Ils sont dans la voiture, ils disent à leur enfant derrière, tais-toi. Et la phrase était un peu complexe. Je vais la faire un peu simple pour les gens qui sont dans l'embouteillage ou celui qui a dit, bon, c'est quoi l'histoire exactement? Raoul Tabourin a un secret. Depuis qu'il est petit, on lui a demandé de faire du vélo. On lui a laissé ses roulettes, et puis non, il ne sait pas faire de vélo. Mais il préfère faire semblant, par un concours de circonstances, dire « je suis le champion du vélo » et à mentir toute sa vie, jusqu'à ce qu'arrive un moment, exactement comme un type qui ne saurait pas lire, ni lire, ni écrire. Vous pouvez, je suis sûr que les gens qui ne savent ni lire, ni écrire, sont capables d'inventer des systèmes pour dire « alors je dois aller là, là, là », jusqu'à ce qu'on vous dise « mais lis là la préface, pardon ».
Et c'est ça qui le rend seul. C'est son secret.
Comme les psychopathes. Si vous ne voulez pas être pris, ne vous entourez pas d'amis.
Allez, musique. Djoubaka a choisi pour vous Jamie Cullum, Wind Cries Mary sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Benoît Poulvorde.
After all, the jacks are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers, Mary. A broom is barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn tomorrow,
clamping us down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries.
Benoît Poulvorde, on va aborder ce premier sujet. C'était au lendemain de l'incendie à Notre-Dame de Paris. Les dons des grands patrons ont aussitôt ruisselé. Et donc, il est revenu.
Qui a fait ça ?
Ta mère !
Ah
oui. Mais ça reste, ta mère, c'est un groupe de rigolos québécois qui s'appelle Ta mère. Voilà. Je me demandais, Benoît Poulvorde, jusqu'à quel point ça vous touche, la destruction de Notre-Dame ?
Ah, c'est pas la destruction, c'est le destin qui s'abat sur quelque chose.
Mm-hmm.
Tu te dis... Moi, je l'ai vu parce que j'étais en train de faire de la promotion et j'ai traversé le pont là où les gens accrochent des cadenas, tu
ouais.
vois ? Donc, il y avait quand même beaucoup de gens sur le pont, alors que c'est interdit maintenant de mettre des cadenas.
Mm-hmm.
Et alors, j'ai vu les flammes. Et non, ça m'a vachement touché, ouais. Alors, pas, mais ça m'a vachement touché parce que c'est quelque chose auquel tu ne touches pas, c'est comme, c'est sacré.
Ouais,
un truc où tu te dis, ça ne peut pas être, et c'est là que tu te dis, oh, le monde est quand même incroyable.
Mm.
Et tu te dis, incroyable, ça m'a touché, ouais. Bon, en même temps, 10 minutes plus tard, c'était oublié, on a changé de rue, mais oh,
Évidemment.
Ça m'a quand même vachement ému, je suis croyant en plus.
Ouais.
J'ai cru que c'était un signe du destin.
J'allais dire, votre enfance chez les jésuites à Godine, c'est remonté à la surface un peu ou pas?
Bah, ça, ma mère aurait dit, je suis sûr que si j'ai pas eu ma maman depuis parce que je suis toujours à Paris, ma mère m'a dit, Dieu est né dans une étable. Donc on s'en fout d'une église qui est...
Ouais.
Mais ce qui est important, c'est que c'est
Jésus,
le symbole que ça représente.
C'est Jésus qui est né dans l'étable.
Qui est né dans l'étable.
Oui,
mais... Oh, mais elle savait pas bien.
Oui, mais c'est le bon. Écoutez les gars, on va pas commencer à discuter.
C'est parce que...
C'est idéologie. Maudit protestant. Jésus, bah Jésus si tu préfères, oui, le fils de Dieu, le fils de Dieu c'est qui ?
Vous qui êtes un grand lecteur, il y a les ventes de livres de Victor Hugo qui explosent sur Amazon, tout le monde achète.
Personne ne
les
lira, ils cherchent juste les trucs avec, il vaut mieux stabilo bosser, à quel moment la cathédrale prend feu ? On sait pas, donc, est-ce que c'est un signe de Dieu ? Et je suis sûr que dans 2 jours, on va avoir tous les complotistes. Il fallait vous y attendre.
Ouais. Ah ben, ils sont déjà là, les complotistes.
Il y en a dans ma chronique.
Je pense qu'on va les
Je veux t'entendre.
À 17h35.
Ouais. Ah oui, on va les
C'est un signe incroyable. Et ce qui était terrible, c'est qu'il y avait un ciel bleu.
C'est quel signe ?
Un ciel d'une beauté.
Ouais.
Et tout à coup, il faut quand même reconnaître que Dieu est taquin. Parce qu'il fait brûler son église dans un ciel merveilleux. C'était vraiment, il y avait une lumière que je trouvais merveilleuse. C'est comme le 11 septembre, et le ciel est bleu, et tu te dis parfois, le graphisme, c'est comme le cinéma. Ils adorent filmer dans les endroits graphiques, et ils veulent reproduire la misère, parce que c'est graphique. Le problème, c'est que vous n'êtes pas aussi fort que les éléments, ni que Dieu. Parce que Dieu nous a mis un ciel bleu pour dire, je suis en colère. Je suis en colère. Alors vous allez me dire, monsieur, vous êtes en train de faire du prosélytisme sur France Inter. Je dis... Un peu.
Et Dieu habite Bruxelles.
Et pourquoi il est en colère, Dieu ? Parce que vous avez dit c'est un signe, mais quel signe ?
Il faut se recentrer sur la spiritualité.
Ah.
Se recentrer. Je ne pense pas que Notre-Dame de Paris incarne la foi, mais elle incarne un symbole. Ce que je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de dire que vous devez croire en quoi que ce soit, je m'en contrefiche.
Non,
en revanche, ce que je trouve assez taquin, j'ai toujours Dieu est taquin. Pourquoi le ciel est si beau ? Pourquoi le ciel est si beau ? Pourquoi le ciel est si bleu ? Pourquoi les... Pourquoi, souvenez-vous de cette... je ferai bien un livre là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Et, mais souvenez-vous quand le truc explose en l'air, et les astronautes sont dedans, ouais. Et ça fait une sorte de scorpion. Et on ne peut s'empêcher de trouver ça extrêmement beau.
Oui.
Alors on pourrait se poser la question de la beauté dans l'horreur.
On est tous restés très très accrochés à toutes les images.
Voilà. Et je me demande parfois comment un journaliste, un photographe se dit, dois-je photographier le constat de la misère ou la beauté des choses qui m'apparaissent ? Et ça, je lève un débat, mais je trouve qu'il est un petit peu tôt, à moitié d'embouteillage pour aborder ça. Charlie !
Merci ! Après Raoul Taburin,
juste
Thomas Bidoguin.
Mais voilà, c'est à moi. Et j'ai peur de rien et je reviens. C'est comme ça, moi, tant qu'on ne vient pas m'arrêter à l'ambassade du Venezuela, je suis là. Et voilà, donc je reviens pour vous parler de storytelling, c'est ça que je fais ici. Et voilà, et le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est une question. C'est le fameux « et si ». Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la grande question qu'on doit se poser quand on se propose de raconter une histoire. Et si ? Parce que « et si », c'est magique. Et si, ça sollicite l'imagination. Et si Bruce Willis arrivait avec son pistolet mitrailleur ? Ben voilà, ça nous solutionnerait bien le troisième acte. Et si Vincent Lindon arrivait avec son burin à plâtre ? Voilà. Et si on reformait Star Shooter ? Voilà. Et si on reformait Vincent Lindon ? Voilà. Avec « et si », tout est possible. Et c'est ça le problème. Parce que dans le monde du storytelling, comme en amour d'ailleurs, quand tout est possible, plus rien n'a d'intérêt. C'est comme ça. « Et si », c'est trop large. « Et si », ça peut vous tuer un récit. Ça peut vous tuer une histoire d'amour. « Et si », ça ouvre trop de portes. Parce que quand on raconte une histoire, ce qu'on veut, c'est les refermer les portes. L'important pour construire un récit, c'est de définir un cadre, de savoir comment réfléchir, de s'interroger sur le type d'histoire qu'on veut raconter, son genre, son utilité, les sentiments qu'elle doit générer, à qui ça s'adresse. Et en se posant ces questions, on définit une boîte, un peu comme une boîte à chaussures. Et là, quand on se pose la question « et si », on sait si elle tombe, la réponse va tomber à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. C'est un peu compliqué, mais je vais prendre un exemple. Vous voyez, les gilets jaunes, par exemple, ben, c'est du « et si » à l'état brut. Si, et si on vivait mieux, et si on faisait payer les riches, et si je prenais un sac Gucci dans la vitrine, et si on faisait des référendums quand j'ai envie, et si Macron démissionnait. Voilà, ça va dans tous les sens. On les regarde défiler, mais on voit bien qu'ils ont du mal à structurer le récit. Emmanuel Macron, lui, qui s'y connaît en storytelling, il comprend ça, il réfléchit. Et ce qu'il fait, c'est définir un cadre à l'histoire. Et il appelle ça le grand débat. Et là, comme par magie, tous les « et si », eh ben, ils tombent à l'intérieur de la boîte à chaussures. Et ils veulent quoi alors les Français ? Eh ben, ils veulent moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins de normes, plus de liberté. Eh ben, ce qu'ils veulent donc, en fait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Et voilà, je les ai fait parler, eh ben, ils pensent comme moi. Ça, c'est du storytelling. Et voilà, Bourdieu disait que les sondages nous en apprennent plus sur ceux qui posent les questions que sur ceux qui y répondent. Et il n'avait pas complètement tort. Parce que avec des « et si », eh ben, tout ce qu'on arrive à faire, c'est mettre Paris en bouteille. Enfin, ce qu'il en reste.
Thomas Bidguin. Oh. Bravo.
Oh. Oui, bravo. C'est
bien sûr, c'est brillant. Benoît Poulvorde avec nous. Il est Raoul Taburin au cinéma, d'après l'œuvre de Sampé et le film de Pierre Godot qu'on vous recommande chaleureusement.
Vous êtes gentil.
Mais vraiment, c'est sincère. La moitié des petits Français ne sait pas nager. Attention. Ce qui cause de nombreux drames, et la ministre des Sports lance un plan anti-noyade, qu'elle a sobrement baptisé plan d'aisance aquatique. Beaucoup moins anxiogène. C'est très français, cette reformulation. Parce que plan d'aisance aquatique, n'est-ce pas ?
Et donc,
on dit, les Français disent je vais à la piscine. En Belgique, on dit je vais au bassin.
Oui. Au bassin, quelle joie de surnager ainsi, presque nu, dans le courant d'une onde pure, les narines vivifiées par cette bonne odeur de chlore. Mais attention, faire de sa frime, comme l'on dit, ne doit pas faire perdre à l'esprit les mesures les plus élémentaires de sécurité pour l'usager. Voici donc quelques accessoires. Le casque de bain, la pince en nez, les lunettes nautiques pour admirer les fonds bordorés. Et enfin, bien sûr, contre les verrules aux pieds, une bonne paire de chaussettes.
Benoît Poulvord aura reconnu, comme tous les Belges, Faux Contact de Manu Taureau.
Qui nous a quittés trop tôt.
Ouais, exactement. En 2000, il nous a quittés. Et tout ça date des fins des années 90 sur Canal Plus Belgique, puis sur la RTBF. Voilà, donc il y a un changement de méthode en France pour apprendre à nager et qui s'annonce dès la maternelle, tous à la flotte, avec des séances plus longues et plus fréquentes pour vraiment prendre ce problème à bras-le-corps des petits Français qui ne savent pas nager assez tôt. Benoît Poulvord, Raoul Taburin, son secret, c'est qu'il est l'orfèvre de la réparation de vélo, mais il ne sait pas
mais
faire de vélo.
Vous avez raison de faire le lien. Pardon, je vous interromps.
Je me dis, est-ce que c'est plus
avouable ? Non, ça pourrait être aussi simple que ça. Imaginez-vous avoir une boîte de nuit gigantesque avec des fêtes, vous savez, comme on voit à la télévision, les fêtes à Miami et tout ça, et vous ne savez pas nager. On jette les filles dans la piscine, enfin qu'on a beaucoup bu et qu'on a dansé, mais vous ne savez pas nager. Donc c'est un petit peu ça, vous avez tout à fait raison.
Parce que vous, c'est pour pécho en boîte de nuit que vous aimeriez savoir nager.
Non, c'est l'image que je me fais.
C'est bien, ça peut motiver les jeunes.
Non, parce que je pense que personne ne peut se dire qu'il a dragué en piscine. Non. Ou alors, non.
Si, les maîtres nageurs, quoi, c'est tout.
Ah ouais. Mais souvent, ils sont plus âgés. Ils ont trois fois l'âge de la petite fille. Non.
Il faudrait pas apprendre.
Attention, je vais avoir tout le congrès des maîtres nageurs. Vous venez d'accuser tout le milieu des maîtres nageurs de faire l'amour avec des enfants plus jeunes. Non, je dis, aucune personne sur le bord d'une piscine ne drague au bord d'une piscine, à moins qu'elle soit dehors, dans une soirée où il y a de l'alcool, où il y a de la musique.
Mais est-ce qu'il est
et
plus... Est-ce qu'il est plus
l'apprentissage. Est-ce qu'il est... Apprendre à nager.
Ouais. Est-ce qu'il est plus inavouable de dire « je ne sais pas faire de vélo » que « je ne sais pas nager » ?
Il est plus inavouable de dire « je ne sais pas faire le vélo » parce que nager, ça reste quand même une sorte de luxe. C'est-à-dire, c'est presque de l'ordre
c'est
de...
C'est moins accessible.
De presque du... Bon, c'est presque un luxe, nager.
Mais c'est bien
faire
ça,
vélo,
c'est bien ça le problème,
déplacer.
C'est bien là où l'école a un rôle à jouer, c'est que c'est moins accessible, la natation.
Oui, c'est presque un luxe. À partir du moment où on nous a appris quand on était petit, et Dieu sait si on a détesté ça, et vous aviez la chance, vous, de pouvoir dire... Je suis dans une sale période. Nous pas.
Pour les filles.
Alors que moi, et pour tous les petits garçons, prenons cet exemple des piscines.
Vous dire,
pour
on y
tous les petits garçons qui ne veulent en aucun cas se changer devant les autres, c'était quand même des douches communes où il y a quelques personnes qui viennent de régions plus sauvages où le froid est intense et les poils apparaissent relativement plus vite. Et donc tu as un type du même âge que toi qui est déjà monté comme un âne avec beaucoup de poils alors que toi t'es glabre comme un tambourin et tu te dis je vais me tourner dans le sang. Donc la piscine a toujours été un problème. Donc tu peux dire je ne peux pas nager. Mais ça reste un luxe. Le vélo, ça n'a rien à voir. Le vélo, c'est un truc... D'abord, le vélo est ta première autonomie. Tu peux aller de là à là, c'est ce qui va remplacer. Si tu ne sais pas faire le vélo, tu ne sauras pas faire le mobylette. Et donc, ça paraît simple dans le film. Tu te dis, tout le monde met des petites roulettes. Moi, personnellement, je n'ai pas appris des roulettes. Et tu te dis, merde, c'est long alors qu'on a encore 3-4 chroniques. Non, j'y vais. Non, je l'ai vu dans tes yeux.
Non, on est à l'antenne.
Non, je sais, j'ai décroché. Et le vélo, moi, j'ai appris que mon frère qui me poussait et tu tombes une fois, trois fois, quatre fois. Mais le vélo, c'est plus que ça. Le vélo, c'est quand même de dire. Au moment où tu commences à pédaler, tu te dis, mais pourquoi j'ai eu tellement peur? La natation aussi, tu mets la main en dessous du ventre et tu dis, bouge deux fois, tu synchronises, arrête d'avoir peur. Et après, les choses qui paraissent tellement simples, comme respirer, te disent, et tu rentres dans la vie. Donc, mais le vélo, c'est quand même un truc qui est de l'ordre de l'équilibre, de vivre avec ce qui t'entoure, et tout à coup, en plus c'est exponentiel le vélo, tu donnes un coup de pédale, ça en vaut quatre.
Ouais. On va prendre aucun risque, on va tout de suite faire le sketch.
Parce que pour l'instant, l'hypothèse la plus probable par rapport à hier, c'est un ouvrier qui aurait laissé un chalumeau sur...
D'accord. Voilà. Et pensons à cette terrible famille.
Et imaginons...
Et le type qui a regardé la télé en disant...
Ben non, c'est surtout
que
j'ai pas laissé, le type qui on a expliqué ce qui s'est passé, ça c'est vous. Et l'entretien de la police est conduit par Charline et le commissaire Meurice.
Et vous m'appelez au téléphone ou vous me parlez?
Non, vous êtes en face.
Je suis la police moi.
Ouais, vous êtes la police.
Et je ne sais pas encore.
Vous le savez pas.
Je ne sais pas encore.
Mon petit gars, ça va chauffer pour vous.
Pardon? Pour encore?
Votre nom s'il vous plaît.
Weber.
Comme le réalisateur?
Non, le barbecue.
Mais comme par hasard. Vous étiez où lundi 15 avril à 18h?
Chantier de Notre-Dame.
Je confirme. Je confirme.
Pardon?
Vous êtes Butagaz, Robert Butagaz.
Et donc, 18h?
Oui, 18h, c'était l'heure de l'apéro avec les collègues.
Et vous avez rien remarqué de particulier?
Si, il faisait un peu chaud.
Non. On était. Non, il faisait chaud parce qu'on a eu un petit coup de chaud parce qu'ils ont été à la troisième bouteille de Ricard.
Pas d'odeur particulière ?
Si, petite odeur de sainteté.
Forcément, à Notre-Dame, il est marrant.
Concentrez-vous.
Alors, sur quelle partie du chantier étiez-vous ?
Sur la charpente en bois, je faisais de la soudure.
Avec ?
Chalumeau. Ah, autant pour moi.
Bernard Chalumeau ?
Bernard Chalumeau. Chalumeau.
Ah ouais, et c'est là que je lui ai dit de venir pour l'apéro.
Et même que je vais répliquer tout de suite.
Bon, vous m'avez l'air de sacrée flèche là, tous les deux.
Mais comme ça, il nous reste une flèche au moins. Hein. Enfin, pardon.
Ouais. Et après ?
Et ben après, je me souviens plus très bien. Parce que c'était. Parce que bon, c'est... l'apéro, c'est.
T'es bouillant, quoi.
Bah, y a pas que vous, regardez la cathédrale là.
Non, ça, hier soir vers 21h.
Bah attendez, est-ce que vous vous souvenez d'avoir éteint le chalumeau ?
Ah, maintenant vous le dites. Non. Et là vous avez raison parce que je ne suis pas convaincu.
Ouais, bah, et nous non plus, hein. Nous non plus.
Vous avez quelque chose un peu pour la tête, un AK-7R ou... Et le montant des dégâts ?
Bah, j'espère que vous avez un bon PEL, quoi.
Honnêtement, si j'avais su, j'aurais coupé le chalumeau. Honnêtement, je me dis...
Quand tu vois ce que ça donne, je te confirme que tu aurais dû. Hein.
Bon, sinon, vous avez d'autres engagements professionnels dans les semaines qui viennent,
hein ? Écoutez, oui, je suis censé travailler sur le chantier Jeanne d'Arc, mais je...
Ah bah oui, bah là, vous avez les compétences, hein,
me semble. Bah bravo. Eh ben on va tout refaire une première fois.
Alors, c'était une bonne première lecture.
La chronique est-il un art mineur ? Avec Guillaume
ça
Meurice.
Ça dépend laquelle.
Question.
Ben, je vais vous parler de Notre-Dame, évidemment. Catastrophe nationale. On a une pensée pour Jeannette Bougrabe. Déjà, la petite amie de Monseigneur André 23. Jack Lang aussi, terrible. Hein, on l'a entendu, il était sur France Inter ce matin. J'ai vu les images. J'ai cru que c'était une gargouille au début. C'est vrai qu'il y a une restauration de visage qui a foiré. Hein, chez Jack Lang, hein, c'est l'ancien sinistre de la culture. Une pensée également pour Stéphane Bern, qui vit ses pires moments depuis la gastro de son caniche le mois dernier. François Pinault et Bernard Arnault ont été obligés de se sacrifier pour faire un don défiscalisé. Enfin, c'est vraiment des heures sombres. C'est terrible, je me suis rendu sur place où les experts sont déjà au travail. J'en ai rencontré plein, des vrais, hein. Je vous parle des vrais experts, pas les mecs payés par je sais quel organisme à la con, là. Des experts qui bossent à l'instinct. Moi, j'aime ça, voilà, c'est les meilleurs. Souvent, c'est mes préférés. Allez, on commence avec un premier.
Moi, je pense que ça a été fait un peu exprès pour ne pas que le président passe à la télé. Hein.
Ah, vous pensez ?
À mon avis, ça a dû, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique.
Il y a quelque chose qui est pas clair.
Que ça tombe ce jour-là. Ça m'étonnerait que ce soit un ouvrier. Hein.
Mais alors, ce serait quoi ? Ce serait l'équipe de Macron qui aurait foutu le feu à Notre-Dame ?
Oui, bon, pour moi, c'est quand même bizarre que ça tombe ce jour-là.
C'est bizarre. Surtout que moi, j'étais dans le coin hier à 19h. Il m'a semblé entendre Sébastien Lecornu dire « Bon, ben, j'ai me fumer une petite clope hein, sur les toits. On a une belle vue. Coïncidence ?» Je ne crois pas. Tout ça est bizarre. Bien sûr, c'est le complot. Hein. Je rappelle que le 11 septembre 2001, George Bush devait aller bouffer chez sa belle-mère. Faudrait peut-être pas nous prendre pour des cons. Hein. Je crois que mon enquête commence très bien. Ce monsieur est sur une bonne piste, mais qui dit enquête dit contre-enquête. Allons voir un autre expert.
Quand je vois de quoi ont été capables les gilets jaunes, je veux dire, de brûler une préfecture, de s'attaquer à un monument national comme l'Arc de Triomphe...
Bon, ça pourrait être un coup des gilets jaunes.
Ah ouais, moi je suis persuadé.
Alors ça relance tout. Alors là, ça serait un gilet jaune sur la lancée du Fouquet's. Les mecs ont pris la confiance, ils se mettent à tout cramer. Alors c'est possible, hein, c'est possible. Alors Castaner est revenu de Mayotte en catastrophe. Hein, je vous rappelais qu'il était, ouais, il était à Mayotte, il mixait au Club Libertin Notre-Dame. Coïncidence encore. Hein, cocktail à volonté, gratuit pour les Vierges Marie avant minuit. Donc, on devrait en savoir plus avec Castou. Mais moi j'ai pas le temps d'attendre, alors je continue mon enquête avec une experte.
Ça peut être un malfaisant ou un attentat, maintenant une nouvelle mode d'attentat. Mais alors ce que je déplore fortement, c'est et la mairie d'Algo, toute la clique, c'est des connards ces gens-là. Moi j'en ai ras-le-bol de la mairie d'Algo, avec tous les trous partout. On attend les bus plus de 25 minutes maintenant, mais il faut la virer cette bonne femme.
Alors est-ce que là il y a un rapport entre Anne Hidalgo et l'incendie ?
Elle est nulle.
Elle est nulle en tout, en bus, en extinction d'incendie, elle est nulle. Franchement, si vous avez un feu de cheminée ou un nid de poule, n'appelez pas Anne Hidalgo, elle est nulle. Là elle est venue, elle n'a même pas de seau pour éteindre, elle est venue comme ça, son sac à main à la con, même pas un Vélib, elle n'a rien du tout. Bon, je suis d'accord avec cette dame, d'ailleurs j'ai continué avec la dame. Là comment elle aurait pu réagir ?
Trump a dit, un Canadair là-dessus, il avait une idée, mais enfin de toute
façon... Mais c'est vrai qu'il avait une idée.
Il a eu une idée, mais bon.
Mais bon, voilà, on n'est pas ambitieux en France, voilà, ça c'est le problème, voilà. Ils ont les experts Miami, on a Joséphine Ange Gardien, ça c'est les Américains. Trump, il a eu l'idée du Canadair, 600 tonnes d'eau, on rase tout, on fait un Burger King. C'est quand même pas compliqué, bordel. Il est comme ça, Trump. Mais ouais, mais c'est les solutions, quoi. Quand il voit un enfant en flamme devant lui, il l'éteint un coup de pelle. Voilà, ça c'est l'efficacité. C'est Trump, voilà. Alors, continuons quand même, parce que moi aussi j'ai une théorie. À mon avis, c'est un coup de Dieu. Voilà, parce que de toute façon, ça fait un moment qu'il nous a lâché. Dieu, on voit très bien, ça part en sucette, ce monde. Hein, sinon, on n'aurait pas les émissions d'Hanouna et les trottinettes électriques. Donc, c'est lui qui crée le bordel. Et Dieu, il était là hier soir.
Ben oui, Dieu, il est partout. Il est partout, mais il était là, mais il peut pas. C'est pas lui. C'est pas Dieu.
S'il est partout, alors il était à Notre-Dame aussi.
Ah oh ben oui.
Bah alors il aurait peut-être pu éteindre l'incendie, non?
Non.
Pourquoi
non.
Il a pas pu?
Parce que ben je sais pas, il pouvait pas l'éteindre ou.
Il a peut-être pas la formation de pompier.
Non, il a la formation de tout, hein.
Ah bah alors.
Ben oui. Il a la formation de tout.
Bah alors, qu'est-ce qu'il a foutu?
On ne saura pas.
Bah, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Le gars, il a un fils qui marche sur l'eau et il est même pas capable de venir filer un coup de main pour en balancer sur la charpente. Ça commence à bien faire les conneries, quoi. Tout Dieu qu'il est, il va bien se calmer, quoi.
C'est un souvenir de Dieu, peut-être. C'est pour jamais, hein. Mais c'est difficile.
Mais alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Convertissez-vous. C'est ce qu'on nous dit toujours. Convertissez-vous. Vous n'êtes pas assez pieux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez?
Ça veut dire qu'il aurait foutu le feu à sa maison pour nous.
Ben oui, c'est comme ça.
Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie des contradictions de Dieu qu'on retrouve chez les êtres humains. Allez vite, envoyez vos dons pour qu'on puisse à nouveau bientôt prier dans ce beau bâtiment pour tous les humains qui crèvent chaque jour dans la misère. Ainsi soit-il.
Je sais pas, c'est dans la playlist France Inter, Johan Papa Constantino.
Je sais pas quel heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quel heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. J'sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pas.
C'est la mi-temps de cette émission, ça veut dire qu'on change de partenaire.
On change et on ne perd pas au change, hein, j'ai l'impression.
On accueille la comédienne Anne-Marie Vin.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà les manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Anne-Marie, on va aborder ce premier sujet avec vous, parce que vous savez, on change le monde dans cette émission.
Bien sûr.
Et on attend la personne qui va vraiment le changer avec nous, le moment où on va renverser la table le soir même, et je sens que c'est avec vous.
Ah !
Pour qu'il y ait transition écologique, il faut que le vert épouse un peu le gilet jaune. La lutte pour le climat a pour moteur aussi la justice sociale, plus d'équité. Et pourquoi pas, rêvons un peu, une finance verte. C'est de plus en plus clair du côté des citoyens, mais du côté des politiques. Alors il faut combattre l'idée que la transition écologique coûte cher, parce qu'elle rapportera surtout des bénéfices sociaux.
Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français...
Enfin, surtout les provinciaux.
Ouais, les provinciaux s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié.
Bien sûr, regardez, hygiène bucco-dentaire, savon végétal... Tiens, regardez ce déodorant. Ah voilà, sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 euros.
C'est le palmacho. Alors, un récent sondage paru le 7 mars nous révèle que 65% des Français veulent que la transition écologique, accompagnée de justice sociale, ça soit vraiment une priorité. Est-ce que vous, Anne-Marie, vous faites partie des 65% dont la priorité, ce serait la transition écologique avec la justice sociale?
De toute façon, l'écologie, c'est quoi qu'il arrive notre priorité, parce que effectivement, on arrive au bout, là. Bon, voilà, j'ai plombé l'émission.
Allez,
on en est bien. Et effectivement, c'est très nécessaire parce que je pense que c'est visualisé depuis le début comme un problème de riches et comme un problème de bobos. Donc du coup, il faut très très vite. Mais c'est, je pense qu'il faut aussi que ça va arriver. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut instaurer là dans la petite école, par exemple, tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, faut que ça participe, faut que ce soit effectivement jugé pour les enfants comme quelque chose de normal. Moi, par exemple, je ne fais pas partie du tout des gens qui ont été élevés par des anciens hippies ou quoi que ce soit et qui ont été sensibilisés à ça. Mais alors absolument pas. Je crois que j'ai commencé à en entendre parler il y a 10 ans, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, il y a une sorte quand même de déclic qui se fait chez le citoyen, qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de riches.
Que non, le parce que là, on nous a tellement fait peur, et à juste titre, mm-hmm. qu'à un moment donné, ça, oui, ça ne devient plus un problème de riches. Mais ceci dit, aller manger bio et tout ça, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Oui.
C'est Anne-Marie Vin, voilà, notre invitée. Voilà. À côté de vous, l'autre picarde, c'est Constance.
C'est la voix. C'est la voix. C'est la voix. Casser la voix.
Non, arrête tes conneries, Patrick. Ne casse pas ton gros organe. Et surtout pas le 16 avril. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix.
Oh.
La voix, vous savez, ces sons que nous produisons avec nos cordes vocales, qui rebondissent dans nos bouches et qui sautent de nos langues comme d'un plongeoir rose et mouillé. Oui! Ce sont des sauts qui, des mots qui sautent. Pantoufle, zigoto, morille, fistule, par exemple. La voix, cet organe avec lequel nous pénétrons moult trous d'oreilles pour titiller le cerveau, le cœur et parfois même l'âme. Pas la chanteuse. Au moment où je vous parle, je fourre un paquet de conduits auditifs et j'adore ça. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on cache tant nos zizi et pas plus nos voix. Parce que dis donc, il y en a des drôlement cochonnes, hein, des plus coquines que des belles culottes du dimanche avec des dentelles et tout. Hein. La voix de Barry White, je la trouve terriblement sexy. Je pourrais la manger. Je pense qu'elle aurait un goût de caramel au beurre salé. Vous remarquerez que je parle de la voix de Barry White au présent, alors qu'il est mort, mais sa voix reste immortelle. Par contre, Benjamin Biolay, il pourrait crever et sa voix avec, ce serait chouette.
Oh, c'est méchant.
Oui.
On ne le pense pas.
Un peu. Un être humain et sa voix, c'est une union à vie, plus longue et solide que n'importe quelle histoire d'amour. Va te faire bouillir le cul, Shakespeare, avec tes histoires d'amour en mousse. Ma voix et moi, on s'est rencontrés au tout départ et on se séparera à la toute fin. Et entre les deux, on compte bien sonoriser la vie et les émotions. Voici d'ailleurs un extrait de notre partition. La joie. Oh, une yaourtière pour la Saint-Valentin. Merci, depuis le temps que j'en rêvais. L'étourderie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes gosses? Ah, flûte, j'ai pas de gosses. Maman! Ah, si. La peur. La télé ne fonctionne plus, Didier. On va être obligé de se parler et de s'intéresser l'un à l'autre. Ne dis pas de conneries, Monique. Appelle Darty, ils peuvent pas nous laisser comme ça. L'amour. Viens, Mélanie, sur les genoux de tonton. Tu sais, tonton, il a très mal en haut des jambes. Il faudrait bien lui faire un petit bisou, mais faudrait le dire à personne. Il paraît que notre voix intérieure est notre second visage. Moi, je pense que ma voix intérieure, c'est Satan. Par exemple, quand je fais la queue quelque part et quelqu'un me double, elle me dit « Bécla ! Bécla ! » C'est vrai. Ou quand quelqu'un fait trop de bruit en respirant à côté de moi, elle arrête pas de me dire « Il fait exprès de respirer fort, hein, pour nous pousser à bout, c'est un plan, c'est une personne qui aime les gifles. Il faut lui faire plaisir en lui mettant des tartares dans sa gueule !» Quand ma voix intérieure est au max de la violence, c'est-à-dire tout le temps, j'arrive à la canaliser en détournant son attention. Je lui dis « T'inquiète, je gère le conflit. Toi, pendant ce temps-là, va chercher une pelle pour creuser un trou dans la forêt pour faire disparaître le corps. » Et elle s'en va toute joyeuse. Alors, comme j'avais pas de chute à cette chronique, je propose une idée cadeau pour faire pleurer vos amis. Offrez-leur des oignons.
C'est Constance. Alors, Anne-Marie va être avec nous. Le français dort en moyenne 6h42 par nuit. Le sommeil est passé sous la barre des 7 heures minimum recommandées pour la santé. Notre société a changé à ce point qu'elle nous empêche de pioncer le minimum vital. Les trajets pour aller bosser notamment, les écrans, le bruit, le surmenage, quoi.
Bernadette, Guillaume, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardé femme. Je t'admire malgré ton génie, je t'aime. Et maintenant, j'ai sommeil. Dodo.
Je peux pas dormir.
Tu n'as qu'à compter tes ouvriers.
Un ouvrier, deux ouvriers, trois ouvriers, quatre ouvriers, cinq ouvriers.
C'est bon, hein.
J'étais amoureuse de lui, moi.
Ah oui?
J'étais gamine. Ah ouais, je voulais que ce soit mon mec.
C'est Fufu et Annie Girardot dans la zizanie.
Vous avez changé de style?
Non, j'y reviens.
Allez, ma biche, on y va.
Parce que Eric Ciotti est disponible.
6h42 de sommeil par jour en moyenne. Est-ce que vous vous situez, vous, dans cette moyenne
tout.
À peu près?
Pas du tout. Non, non, moi je suis très privilégiée parce que je me situerais plus dans les 10 heures, moi.
Ah oui, ouais,
ouais, ouais. Comme un enfant, un bébé.
Ah,
bah, je peux pas avoir ce physique. Ce teint de pêche à 55 ans, si je dors pas. Non, non, mais c'est vrai, moi je dors beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Mais sinon, ça devient vraiment. Je deviens vraiment une autre personne, moi.
Mais c'est presque handicapant parce que non. Vous trouvez le moyen de dormir 10
ouais.
heures.
Ouais.
Mais même en tournage. Quand ouais. on tourne une série, c'est quand même un rythme.
Non, non, mais c'est, d'abord, moi, je suis pas du tout. Je suis assez casanière. Donc, je reste à la maison et je m'endors à 18h.
Vous sanctuarisez. À 18h?
Vous sanctuarisez. Mais non, mais je peux m'endormir à 23h max, quoi.
Et du coup, vous vous réveillez à quelle heure? C'est vachement handicapant, quand même.
7, 8h?
Ouais.
Plus du tout envie de partager. Non, que ce soit avec comme vous.
Et autour de vous, parce que c'est,
non, alors
c'est
des enfants quand même. Ouais. Donc, ah pardon. Oui, oui.
Non, non, non,
on ouais. parlait d'autre chose que.
Non, non, les enfants, ça vous permet. De...
ça n'arrivera plus, on vous le promet.
Ouais, j'aimerais que ça n'arrive plus parce que
les, pas les enfants, vous faites gaffe parce qu'ils partent pas avec leur smartphone dormir ou ce genre de
choses. Non, chose. Ouais. Bon, ils sont tout petits, ça va pas. Non, hors de question. Non, non, ils sont trop petits.
Avec leur babyphone alors.
Est-ce qu'ils ressemblent à Nuit de Funès, vos enfants?
Non, ils sont magnifiques. Enfin, je sais qu'ils l'étaient aussi. Mais
sinon, l'impression que donne cette étude, c'est que soit la société nous laisse de moins en moins de répit, ou alors qu'on ne s'accorde pas assez ouais. de sommeil. Alors, je ne sais pas si autour de vous.
Mais il paraît que plus on vieillit, moins on en a besoin.
Ah,
de
c'est
dormir.
Possible.
Oui. Ouais.
C'est con parce qu'on a plus le temps.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais on va bientôt mourir.
Hein, c'est super.
Non, mais... le sommeil, c'est un des derniers espaces réellement vierges et intimes qui appartient à quelqu'un. Il y a plein de filles qui disent que c'est plus intime de dormir à côté d'un garçon, et des garçons qui disent que c'est plus intime de dormir à côté d'une fille que de coucher avec.
Ah ouais, bon, ça, non. Pardon, mais moi, je reviens demain pour ce débat. Ouais.
Anne-Marie Gratitude. Vin avec nous. C'est l'héroïne du jour. Elle est ce soir sur France 3 dans la série Sous la peau. Et on va aborder ce troisième sujet. Pendant les cours de PS, la composition des équipes, c'est une épreuve pour beaucoup d'élèves. Il y a ceux qui sont choisis en dernier par leurs camarades et ceux qui subissent des remarques désobligeantes du style « Oh non, il est trop nul, je veux pas dans mon équipe ». Donc les élèves n'en sortent pas totalement indemnes de ces cours de sport.
Vincent,
ouais.
Je peux te poser une question?
Ouais.
Qu'est-ce qu'a fait les équipes?
C'est moi, pourquoi?
Ouais, parce que j'arrête pas de perdre.
Mais alors, c'est pas important ça?
Oui, mais c'est peut-être pas important pour toi. Mais moi, j'ai que des petits dans mon équipe. Le doyen, il a 7 ans. Comment tu veux que je gagne avec une équipe comme ça?
Omar Sy dans Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Alors, Anne-Marie Vin, vous étiez de celles qui composaient les équipes ou qui étaient choisies en dernier ou...
De deux.
Ça dépendait du sport.
Ouais, ça exactement.
Vous rappelez ces épisodes?
Je me souviens très très bien. Mais moi, je suis très dubitative sur ce sujet. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter de surprotéger les enfants. D'abord, l'école, c'est très dur. Enfin, c'est et puis c'est vachement bien de les former aussi au non-choix et à la frustration de pas être choisi. C'est vachement bien. Faut arrêter.
Vous êtes un peu de droite. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mais ça me soulage beaucoup. Je vous remercie.
Je ne me positionnerai pas par rapport à ce que je viens de dire de droite ou de gauche. Mais je dirais que, non, non, franchement, je trouve ça très, très bien. C'est super que les enfants, il faut leur apprendre la frustration. Il faut leur
D'ailleurs,
apprendre.
D'ailleurs, on conseille
aussi
votre livre, hein, La pédagogie par l'humiliation.
Exactement.
Aux éditions du Martinet.
Il a très peu marché.
Oui, mais bizarrement.
Je suis contente que vous l'ayez lu.
Je suis pas en Corée du Nord, il a fait un très beau succès.
Vous voyez, c'est toujours ça.
Mais c'est fou.
Mais oui.
Comment on est jugé avec ça tout de suite.
Je voudrais poser une question à Anne Dolto, si c'est possible. Dans un article paru
Anne Dolta.
Un article paru sur Slate.fr. C'est vrai que l'école est le premier lieu du vivre ensemble.
Ouais,
alors, on peut très bien voir le fait que ce soit difficile et parfois violent pour les enfants quand c'est leurs camarades qui font les équipes et qui ne sont pas choisis et qu'on essaye de les éviter. Mais aussi le fait d'être responsable de composer une équipe.
Oui, et puis ça peut aussi leur apprendre la compassion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas choisis à ce moment-là et du coup, ils vont être à la place d'être à la place de celui qui choisit, d'être à la place de celui qui n'a pas été choisi. Moi, je trouve ça très, très bien.
Non, mais quelle idée après de faire... Revenons à la base, quand même. Quelle idée de faire des cours de sport?
On a
tous
souffert à gauche,
avec des tours de stade.
À gauche, on va y aller au sketch.
Il y a des gamins qui adorent ça.
Mais des cours d'art, alors, allons-y.
Oui, mais nous, on était plus, on était à trois.
Il y a des enfants qui n'ont pas accès au sport en dehors de l'école. Les parents n'ont pas les moyens, etc.
De l'art à la place.
Les deux.
Allez, sketch.
On a fini le sujet sur le PS.
Ça y est, c'est fini.
C'est tout petit.
C'est l'heure du sketch. Attention, vous avez un rôle, vous allez jouer avec nous.
Qu'est-ce que c'est? C'est AM, c'est moi?
Ouais, toutes les filles sont des poules parce qu'on va
mettre en scène la brève du jour. Morbihan, des milliers de poules tuent un renard à coups de bec. Le renard est rentré dans le poulailler et elles ne se sont pas laissées faire. Les filles, vous êtes toutes dans le poulailler et c'est Guillaume Meurice, le salaud.
Miam miam, à moi les petites poulettes.
Ah ouais, t'es sûr?
C'est pas un renard qui va nous faire peur, hein.
Ouais, on est des poules de combat, nous.
Alors moi, si vous permettez, je suis plus poule de luxe.
Eh, ça caquette, et ça caquette, je vais t'en faire qu'une bouchée des McNuggets, là.
Eh, tu sais ce qu'on va leur faire, nous, au tueur en série?
On en fait des petits morceaux.
Ouais, coup de bec, quoi.
Ouais, cause toujours, avec glousse toujours, tu m'intéresses. Bon, par laquelle je commence?
Moi, je vous en supplie.
Mais qu'est-ce qu'il te prend?
Il me prend que j'en peux plus de cette odeur de fiente.
Dis donc, tu ferais pas ta Catherine Deneuve?
Ah, parce que ça te plaît de vivre le cul posé sur un tas de fumier?
Non, je te rappelle que tu es une poule, ma cocotte.
Bah, les filles, restons solidaires, hein, nous sommes en danger.
Hashtag, balance ton renard, balance ton renard.
Vous dites hashtag?
Hashtag, c'est pas ça.
C'est pas loin.
Hashtag?
Oui, très bien.
Allez, les poulettes, on a pas le temps.
Non,
là.
Mais pardon, mais c'est quand même pas Harvey Weinstein.
Ni Romain Goupil, hein. C'est peut-être pas le moment de faire des jeux de mots, là.
On va essayer de faire de l'humour, les pondeuses.
C'est très sexiste, ça.
Dénonçons-le à Marlène Schiappa.
L'écrivaine?
Ah, bah pour une poule, tu parles d'une plume.
Non, là, on est d'accord, c'est pas vraiment Poulet Loire.
Oh, si on appelait les
bon,
poulets.
Ça, qui ferait ça, pardon.
Toujours pareil, ils sont jamais là quand on en a besoin d'eux.
Quand on a besoin
d'eux.
Oh, c'est nul.
Elle
c'est
a raison, nul. Elle a raison, c'est nul. Et moi, j'ai faim.
Mais t'es pas végétarien?
Franchement, j'ai une tête à bouffer des graines.
Moi, je pense que si nous allions, tu vas bouffer la poussière.
Depuis quand les femmes salissent?
C'est vrai, d'habitude, les femmes, c'est comme la gauche, c'est très divisé.
Et donc?
Et donc, je les croque et je les divise encore plus.
Mais fais gaffe, là, il y a un loup.
Oh non, où ça?
Bah, ouais. Il est mort, bah, tu lui as mis un coup de pelle. Mais c'est pas crédible.
Bon, on s'en fiche parce que c'était un sketch.
Nous arrivons tout doucement vers 18h. Il est donc temps de presque conclure cette émission. Et comment s'appelle ce presque?
Eh ben, il s'appelle Frédéric Fromm. Et parfois, il nous crée des chansons partant de rien. Et parfois, il fait des featuring anachroniques impossibles. Ici, nous sommes sur Edith Piaf, emportée par le fioul.
Avec le naufrage du Grande America, ce sont les oiseaux mazoutés qui m'ont inspiré. Des oiseaux qui, forcément, m'ont fait penser à Edith Piaf. Emporté par le fioul, le mazout, on exagère. On est plus lourd que des palourdes, on est plus crétin que des brères. Pour les mouettes, les cormorants, c'est la misère. Mais le pire, c'est que j'ai jamais autant roulé les airs. Car je suis en colère, je suis vénère. Wesh mon frère, grave la galère, grave le calvaire de voir tous ces containers. Plein d'hydrocarbures, plein de matières pétrolifères. Ça me désespère quand l'homme s'amuse à niquer sa mère. Est-il nécessaire de faire l'inventaire des désastres écologiques planétaires? Faut-il égrener nos actes suicidaires, nos innombrables saloperies mortifères? J'ai plein d'autres rimeries collantes en air, comme cancer, cimetière, castaner, funéraire, six pieds sous terre, couronne mortuaire. C'est joyeux comme une playlist de France Inter. Emporté par le fioul, pour salir, on sait faire les mers, les fleuves et les rivières, et ça ose mettre des marinières. Pourvu que soient préservées les stations balnéaires, avec leurs touristes agglutinés enduits de crème solaire. Emporté par le fioul, à quoi ça sert que Thalassa sur France 3 met en lumière la vie au large des Kéménères. Comment cela dissuade le Finistère de danser d'une drôle de manière le petit doigt en l'air? Emporté par le fioul, on dirait bien qu'on considère les océans comme des water, comme un vide d'ordure ordinaire. Faut-il croire que nous sommes mauvais locataires au point d'en arriver à tuer terre et mer? Emporté par le fioul, je concède sans mystère que notre folie meurtrière n'a pas la portée de naguère. Souvenons-nous du naufrage d'un navire de croisière, entraînant Céline Dion à nous polluer le conduit auriculaire. Un peu comme moi ici, accompagné par la famille Burguière.
Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Bien sûr, on se retrouve demain en compagnie de José Garcia et d'Antonia de Rendinger. Ça vous va?
Moi, je reviens demain, du coup.
Allez, à demain alors.